Puis on s'est entendu, puis c'est déjà le cas depuis le jour 1. Ça fait 2 semaines pour l'histoire là, que je suis chez Hootsuite. Donc c'est tout nouveau, tout beau. Mais non seulement on garde nos emplois à Montréal, mais on vient d'ouvrir 25 autres offres d'emploi pour le groupe Montréal. Donc on était 80 il y a 2 semaines. On va dépasser les 100 personnes d'ici la fin de l'année, assurément. Donc c'est non seulement d'investir dans notre technologie, mais dans nos gens, dans notre savoir-faire à Montréal et de bâtir un centre d'excellence à Montréal. Ça fait partie de la vision de l'acquisition.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 92e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 2 millions de dollars de publicité Facebook par mois, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. En janvier 2021, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Étienne Mérineau, cofondateur de l'entreprise de chatbot conversationnel Heyday. Au moment de la discussion, Étienne nous faisait part que l'entreprise était en train de lever une nouvelle ronde de financement afin d'attaquer de front le marché américain et ainsi augmenter considérablement leur empreinte aux États-Unis. Eh bien, il faut croire que 6 mois peut changer beaucoup de choses pour une entreprise, car tout récemment, l'entreprise de Étienne et de ses 3 autres partenaires d'affaires s'est fait acquérir par le géant Hootsuite pour la somme de 60 millions de dollars. Également important à mentionner à l'audience, Heyday a été fondée en 2017. On parle donc d'une exécution quasi impeccable de l'équipe à Étienne, car soyons honnêtes, réussir une vente de la sorte en 4 ans seulement est quelque chose d'exceptionnel. On en parle donc aujourd'hui dans un entretien, ma foi, fascinant en anecdote. Sans plus attendre, ma discussion avec Étienne Mérineau. Étienne Mérineau, lors de l'épisode 62 de Hypercroissance enregistré en janvier 2021, tu étais venu discuter avec nous de la croissance de Heyday et également des plans d'expansion de l'entreprise au sud de la frontière. 6 mois plus tard, beaucoup de choses ont évolué avec votre entreprise et même que très récemment, vous avez annoncé que l'entreprise a été acquise par Hootsuite pour 60 millions de dollars. On a donc une belle discussion qui nous attend aujourd'hui, mais avant toute chose, Étienne, je tiens à te féliciter du bel exploit que toi et ton équipe avez accompli récemment.
Écoute, je te remercie Antoine, ça me fait plaisir d'être là. Une deuxième occasion de discuter au podcast Super Croissance ensemble.
Ben, avec toutes les choses qui sont déroulées avec vous récemment, je pense que ça valait la peine. Puis Étienne, j'aimerais que tu nous dises, une acquisition, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, en début d'année, on parlait de croissance. Tu nous disais que tu allais chercher le maximum de parts de marché aux États-Unis. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est déroulé entre janvier et là, on enregistre le podcast aujourd'hui, on est au mois d'août 2021?
Pour ceux qui suivent un peu la tech en général, et c'est vrai, puis ça s'applique à notre industrie aussi, là, c'est une effervescence incroyable dans les marchés actuellement. Nous, ce qui est arrivé, c'est que lors de l'acquisition de customers par Facebook, une entreprise qui va être considérée compétitrice de façon générale là, à Heyday, Facebook a acheté customers pour 1 milliard en décembre dernier. Puis ça a comme j'ai dit, lancer un jeu de domino, surtout avec l'effervescence des marchés là, boursiers, là, puis le capital qui est quand même à faible taux d'intérêt, mais ça a lancé une effervescence d'acquisition, puis de en bon franglais, de outreach. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont contactés, des entreprises différentes tailles, américaines, canadiennes, etc., via LinkedIn, via courriel, de tous les canaux virtuels possibles. Et on s'est mis à, en tant qu'entrepreneur, nous, on était en mode de financement. Fait on a parlé, je peux, dans les grandes lignes, là, on a parlé à plus de 90 investisseurs, on a parlé à plus de 10 entreprises, des partenaires potentiels comme Hootsuite. Et au final, ben t'écoutes, c'est ta job de prendre l'information puis de regarder c'est quoi qui peut accélérer le plus d'entreprises. Nous, c'est ça le mot d'ordre pour 2021, accélérer. C'est un marché en pleine démocratisation avec la COVID, accélération par le fait même. Donc, on était tout oui, puis au final, il y a eu plein d'opportunités, comme vous pouvez imaginer, mais Hootsuite, compagnie canadienne, compagnie qui est très complémentaire à nous, c'est le leader mondial en réseaux sociaux, donc une gestion, si on veut, de toutes les conversations publiques entre les consommateurs et une marque. Et Heyday, on est plus concentré sur les canaux de messagerie, donc toutes les conversations privées avec entre les consommateurs et les marques. Donc vraiment, deux côtés de la même médaille dans un sens très complémentaire, de tailles différentes et Hootsuite avec leur force de frappe mondiale, ben, ça faisait un beau complément. Là, on voyait vraiment une opportunité de 1 plus 1 égale 10 ou 100 ou 1000.
Puis, si j'en reviens un petit peu à janvier, donc à ce moment-là, j'ai fait mes recherches, puis je pense que vous veniez tout juste de lever une ronde de financement de plusieurs millions de dollars. Et là, je lisais entre les lignes parce qu'il y a énormément d'articles de presse qui sont sortis sur l'acquisition qui vient tout juste d'être annoncée. Je lisais entre les lignes, j'ai l'impression que c'est au moment que vous avez fait cette ronde de financement-là que les conversations avec Hootsuite pour une possible acquisition se sont déroulées. Tu me disais d'ailleurs avant le podcast que vous discutez, que vous datez entre parenthèses depuis un bon bout de temps avec Hootsuite. Peux-tu nous parler un petit peu comment que ça s'est déroulé entre on lève de l'argent puis finalement ça va plus loin que ça?
Oui, bien sûr, bien entendu, une compagnie privée qui a été achetée par une compagnie privée, donc je peux parler en termes généraux, de façon générale, mais la chronologie des choses, c'est que nous, on était vraiment dans on était vraiment en mode indépendant, je veux dire, on était en mode accélération, on regardait le marché, comment ça se dessine à l'international, ça nous prend de la trésorerie, là, ça nous prend des munitions, ça nous prend beaucoup de financement pour attaquer le marché, donc Desjardins Capital, InnovaBot, bref, la BDC, des fonds qui étaient déjà derrière nous là, à prime abord, si on veut doubler leur mise, on a rajouté 6,5 millions en financement et notes convertibles au début de l'année. C'est quelque chose qui avait été honnêtement discuté plus en 2020, mais l'annonce a été faite en 2021 pour justement créer du momentum autour de Heyday. Il y a toujours une dimension relations publiques autour de ça, mais le capital avait été solidifié, si on veut, confirmé en 2020. Donc, nous, on était dans un plan d'indépendance, comme je disais, et là, soudainement, tu as des Hootsuite de ce monde qui cognent à ta porte, mais tu te mets à écouter un petit peu, puis à regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Tu te laisses séduire, tu te laisses charmer, tu regardes la vision commune, les synergies. Et avec toutes les opportunités sur la table, on a décidé que celle-là, c'était celle qui nous parlait le plus, qui a vraiment l'impression qu'on allait pouvoir démocratiser notre produit avec cette décision-là.
Peux-tu me parler du laps de temps un peu, donc entre les discussions qui ont commencé puis la transaction finale, donc ça a été annoncé, on enregistre le podcast 17 août 2021, je pense que peut-être une semaine ou 10 jours de ça, donc c'est tout nouveau, là, début août ça a été annoncé, mais c'est quand que les conversations ont vraiment commencé et que c'est quand qu'elles se sont conclues?
Ben encore là, je vais y aller de façon chronologique et générale, mais ça prend. En fait, il y a pas une transaction qui est pareille. On s'entend. Là, des fois, ça prend 18 mois avant que deux parties finissent par s'entendre. Des fois, c'est plus rapide. Mais là où ça a vraiment décollé, je dirais, c'est plus au printemps, là, où les conversations sont devenues plus sérieuses, la vision commune s'est cristallisée. Puis ensuite, pour l'intérêt des auditeurs, là, comment ça fonctionne, c'est un peu, moi j'utilise toujours l'analogie d'une maison. Donc, tu fais une offre d'achat. L'offre d'achat est conditionnelle à une inspection. L'inspection, dans le contexte d'une entreprise, c'est pas mal plus long qu'une heure avec un petit rapport. C'est plus, il emménage chez vous pendant 3-4 mois, puis il regarde tout. Fait que tu t'assures que les repas que tu cuisines à chaque soir sont sur la grosse coche. Et que si jamais il y a une craque au plafond, tu mets du plâtre pendant qu'il dorme. Mais sans blague, c'est surtout à l'ère de la COVID, là, tout s'est fait virtuellement, faut le mentionner. Donc, à distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage de documents, on a fait le tour de tout, là. La propriété intellectuelle, nos processus internes, les salaires, le staffing, nos processus de gestion, l'expérience client, A à Z. On a fait le tour et au final, c'était la satisfaction de l'acheteur. Et les termes généraux de l'offre aussi étaient à notre satisfaction. Donc, on en est venu à une entente qui a été officiellement annoncée le 3 août, mais on a signé pour le petit les annales, si on veut, de l'histoire, on a signé le 29 juillet officiellement.
Bon, ben félicitations encore une fois pour tout ça. Puis je serais curieux, Étienne, ça a été quoi la plus grosse valeur? Puis bien entendu, tu nous diras ce que tu peux nous dire et ce que tu peux pas nous dire, parce que comme tu le dis, c'est deux entreprises privées qui ont fait une transaction ensemble, aucune d'entre elles n'est publique. Quelle a été la plus grande valeur qui a été vue de Hootsuite chez ED? Est-ce que c'était davantage votre bassin de clientèle, votre propriété intellectuelle, comme tu l'as dit plus tôt? Est-ce qu'il y a un truc spécifiquement dans vos actifs que Hootsuite a dit « Ah, c'est quoi ça? On en a besoin et on en a besoin maintenant. »
Ben c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est à la mode, puis ça va continuer d'être à la mode. Hein. On est à la première génération, si on veut, des plateformes dites intelligentes artificiellement, qui utilisent l'intelligence artificielle pour différentes fonctionnalités. Dans notre cas, à nous, c'est une intelligence artificielle conversationnelle. Donc, on utilise notre intelligence artificielle pour automatiser toutes les questions clients, que ce soit en mode pré-achat ou pendant l'achat ou en mode service après-vente. Donc, toutes les questions de premier niveau, les questions qui sont faciles à automatiser. Et on a un système hybride, donc il y a toujours un être humain, que ce soit un vendeur en magasin ou un agent de service à la clientèle qui est là en second lieu, prendre le relais si on a besoin, en tant que client, d'avoir une touche humaine. Donc, c'est sûr que pour eux, on se rappelle que Hootsuite, c'est le leader mondial en gestion des réseaux sociaux. On se rappelle aussi que les conversations sur les réseaux sociaux sont de plus en plus privées. Donc, il y a de un à un des échanges, que ce soit avec vos amis, vos collègues, votre famille ou de plus en plus avec des entreprises. Dans notre contexte à nous, c'est la gestion des conversations privées avec les entreprises. Et la seule façon de gérer ces conversations-là de façon 24/7, 365 jours par année, instantanément, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle, de l'automatisation. C'est en ça impossible pour les marques de pouvoir gérer à grande échelle. Donc, l'attrait principal, je dirais, c'est vraiment la technologie, la propriété intellectuelle, le savoir-faire multilingue, spécialisé en e-commerce, que Heyday a bâti au fil du temps. Et au sens plus large, mais la nouvelle génération de consommateurs, c'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. C'est une génération qui, en ligne, en fait, les engins de recherche de plus en plus, c'est plus nécessairement Google, c'est Instagram. Tu cherches des marques, tu cherches des gens via les canaux sociaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le magasinage en ligne passe beaucoup par ces canaux-là. Et c'est sûr que là où on s'est vraiment rencontré en termes de vision, c'est de dire, OK, Hootsuite a un bagage de marketing social et Heyday, c'est commerce conversationnel. Mais quand tu mets ça ensemble, c'est du commerce social, dans le fond. C'est vraiment le prochain horizon d'e-commerce. Le prochain e-commerce, il se passe nativement sur le mobile, sur les réseaux sociaux, sans qu'il y ait de friction pour le consommateur, sans que tu doives changer de plateforme pour aller faire un achat. Et Hootsuite, ben, sont quand même malins stratégiquement. Ils savent que c'est là que ça s'en va. Et en achetant Heyday, ça consolide cette vision-là, ça l'accélère. Et des deux côtés, en fait. Fait que c'est une accélération commune.
Puis parlons-en de ça quand tu dis des deux côtés, parce que, et corrige-moi si je me trompe, l'équipe de Heyday va rester impliquée chez Hootsuite pour les prochaines années. Donc là, bien entendu, on parle d'une acquisition qui a été faite par Hootsuite. Mais vous avez toujours votre plan de 5 ans, vous avez toujours faim, vous voulez aller grossir votre part de marché. Parle-nous un petit peu de comment votre entreprise va être impliquée, ou du moins comment Heyday, maintenant à l'intérieur de Hootsuite, va être intégrée, et ça va être quoi vos rôles, et est-ce que vos objectifs ont changé?
Ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un point très important pour nous là, dans les conversations. Et quand je disais qu'il y a eu une synergie à peu près parfaite là, depuis le début, qui continue aujourd'hui, ça inclut ce point-là. Nous, on a bâti une expertise en intelligence artificielle à Montréal. On est des fiers Québécois. On veut continuer à bâtir à Montréal, que notre savoir-faire soit reconnu mondialement. D'ailleurs, Hootsuite avec leur plateforme mondiale, ça nous aide à accomplir cette ambition-là. Puis, on s'est entendu, puis c'est déjà le cas depuis le jour 1. Ça fait 2 semaines pour les pour l'auditoire là, que je suis chez Hootsuite. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, mais non seulement on garde nos emplois à Montréal, mais on vient d'ouvrir 25 autres offres d'emploi pour le groupe Montréal. Donc on était 80 il y a 2 semaines et on va être à peu près on va dépasser les 100 personnes d'ici la fin de l'année assurément. Donc c'est non seulement d'investir dans notre technologie, mais dans nos gens, dans notre savoir-faire à Montréal et de bâtir un centre d'excellence à Montréal. Ça fait partie de la vision de l'acquisition. Et à ta deuxième question, si on veut, là, c'est ça devient quoi le rôle des cofondateurs de Heyday? On est 4 ingénieurs et moi-même. Et donc, chacun va jouer. Dans le fond, nous, on est vraiment les ponts entre Heyday, qui demeure une division autonome, sous Hootsuite, à Montréal, basée à Montréal, mais qui est vraiment la division qui contrôle tout ce qui est intelligence artificielle et messagerie texte, plateforme de messagerie client. Là. Et nous, notre rôle, c'est de jouer... faire le pont, en fait, stratégiquement. Donc, on est impliqué dans les rencontres de vision 3 à 5 ans chez Hootsuite. Il y a vraiment un bel esprit de corps et une synergie à tous les niveaux, produits, business, et maintenant vente et marketing aussi. Là. Donc, on est tous super excités de cette décision-là.
Fascinant tout ça. Puis, parlons un petit peu de ça. Donc, en début d'année, vous vouliez davantage aller chercher une part de marché au sud de la frontière, donc aux États-Unis. Tu le dis, Hootsuite, c'est un leader mondial, travaille avec des joueurs de renom et il travaille avec beaucoup beaucoup de joueurs de renom. À quel point, si tu es capable peut-être de nous le dire, ça a été changé, de travailler avec ce brand-là va vous permettre d'aller chercher peut-être ces plus gros poissons-là ou peut-être qu'ils sont déjà dans les clients d'au-dessus. Donc là, les conversations vont être encore plus faciles. Comment ça va se dérouler tout ça?
Ben, ce qui est génial, c'est quand on regarde les chiffres qui sont publiquement là, partagés là, par Hootsuite, c'est, on parle de plus de 18 millions d'utilisateurs. Là-dessus, il y a 200 000 clients payants, donc des entreprises. Des entreprises de toute taille, on s'entend. Mais là-dessus, si on regarde, c'est sûr que R&D a été développé plus pour des grandes marques. Là. On se souvient que Lacoste est un client, par exemple, Decathlon, plus près de chez nous au Québec, le groupe Simons, le groupe Dynamite, IGA, etc. Donc, des clients qu'on pourrait dire de niveau entreprise et on se concentre de plus en plus sur le, en bon franglais, le mid-market, donc vraiment le marché entre les deux, donc avec des clients comme Mobilia, JC Perrault, vraiment des Rootsack. On a plusieurs marques en mer de serre, de commerce de détail canadien, québécois. Et Hootsuite, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, de leur côté, ils ont 80% des ce qu'on appelle les Fortune 1000 brands, donc les 1000 entreprises avec la plus grande capitalisation, la valorisation boursière au monde, c'est des clients d'Hootsuite. Okay, on dit que c'est un leader dans leur domaine, c'est vrai, les chiffres le prouvent. Pour nous, vous pouvez imaginer, c'est le fun ce qu'on a développé, mais on demande une compagnie qui a 4 ans. Là. On vient de fêter nos 4 ans, donc nos chiffres étaient beaucoup moins impressionnants, malgré le fait qu'on avait des belles marques déjà dans le portfolio. C'est sûr que nous, ça devient un terrain de jeu immense. C'est sûr que c'est plutôt des marques qui sont en retail ou e-commerce. On va commencer à s'attaquer aux marques dans le portfolio d'Hootsuite qui sont plus homogènes là, avec notre portfolio à nous chez R&D. Mais il y a définitivement des synergies commerciales jour 1. Puis vous pouvez imaginer qu'on est déjà à l'ouvrage là, à les identifier et à les attaquer.
Puis en termes de positionnement, donc là, je voyais un petit peu sur les médias sociaux, c'était R&D by Hootsuite. Comment ça va se dérouler un petit peu votre développement? Est-ce que vous allez travailler avec les équipes de vente de Hootsuite? Est-ce que vous allez garder votre indépendance pour le développement d'affaires? Est-ce que peut-être ça n'a pas été encore discuté tout ça?
C'est une bonne question. Dans les grandes lignes, là, le mot d'ordre, c'est d'accélérer R&D. Donc, Hootsuite devient notre propriétaire et notre investisseur principal. Dans le fond, notre seul investisseur. Mais c'est de nous accélérer. Nous, on était déjà sur une courbe qu'on pourrait appeler de l'hypercroissance, là, qui fait bien avec le nom du podcast. Donc, c'est sûr que le leadership, là, le CEO chez Hootsuite, il dit le mot d'ordre dans l'interne, c'est on fait rien pour ralentir. Des fois, les acquisitions, ça peut ralentir des entreprises. On ne fait rien pour les ralentir. On s'enlève du chemin. On est juste là pour les aider à accélérer. Fait qu'on est impliqué pour ouvrir les portes, mais on n'est pas là pour enfermer ou créer des processus inutiles. Donc nous, pour nos employés, là, y a rien qui a changé en fait. Ça continue à être ce que R&D était. Ceci dit, c'est sûr que moi, d'un point de vue, je chapeaute beaucoup ce chantier-là, le côté plus commercialisation, positionnement, etc. Je fais le pont avec Hootsuite. C'est sûr que ils ont une équité de marque exceptionnelle dans le domaine du marketing social puis de la technologie en général au Canada et dans le monde. Fait que c'est inévitable que R&D, vous le voyez avec R&D par Hootsuite ou R&D by Hootsuite en anglais, on va aller essayer d'aller chercher la résonance, là, l'attrait sur les marchés de la marque Hootsuite tout en restant nous-mêmes. Donc, c'est de trouver, ça fait 2 semaines que je suis là, je tiens à le souligner encore là, donc c'est de trouver le bon équilibre. On est là-dedans dans ces discussions-là, je peux rien révéler à ce niveau-là, mais ce que je peux révéler, c'est ce qui est déjà un fait, ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est que R&D demeure R&D. On demeure encore là, les experts en IA conversationnelle ou en commerce conversationnel à Montréal et au Canada. Puis on veut attaquer, grâce à Hootsuite, davantage les États-Unis et le reste du monde.
Intéressant. Fascinant même. Puis j'aimerais en parler un petit peu de ton rôle, de ce qui s'est déroulé, tout ça. Donc, je commencerai en te posant la question maintenant. Donc, bien entendu, tu as ton rôle qui va continuer chez R&D. Tu l'as dit, vous gardez votre indépendance, vous développez l'entreprise. Maintenant, j'imagine, comme tu l'as dit, vous êtes intégré dans les plans de 5 ans de Hootsuite. Quel est ton rôle, on va dire, présentement, dans l'organisation qui est Hootsuite? Est-ce que déjà là, tu es en train peut-être de faire du conseil? Est-ce que tu es en train de les aider sur certains aspects? Ou du moins, est-ce que c'est eux qui sont en train de t'aider sur certains champs de bataille? À quoi que ça ressemble peut-être ton implication avec Hootsuite?
Ben, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'aligner. Il faut toujours partir de la stratégie, de la vision. Après ça, tout le reste découle de ça. Puis c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre les chantiers, là, les plans pour les équipes, tout ça par département. Donc, on est beaucoup dans le macro, là, tu sais, dans la stratégie, dans la vision. Donc oui, j'ai la chance d'être autour de la table là, de discussion puis d'amener notre ADN. Ils ont acheté pour notre ADN, notre savoir-faire dans ce qu'on fait. On est vraiment on dans la prochaine génération, comme on disait tantôt, du marketing social, mais au sens plus large de l'expérience client sociale, parce qu'on est, on fait du commerce, on fait du service à clientèle avec notre plateforme. Donc, c'est vraiment toute l'expérience client de A à Z. Et c'est vers ça, inévitablement, qu'on s'en va en tant que, qu'industrie, mais en tant que compagnie aussi. Donc, c'est sûr que je suis impliqué à ce niveau-là. Et ensuite, ben, toutes les discussions, on parlait tantôt, les fameuses questions. Bon, hey Day, qu'arrive-t-il avec la marque? Comment on s'intègre? Toutes ces conversations-là sont à leur premier balbutiement, mais on est activement là-dessus, là, présentement.
Es-tu capable de nous dire un petit peu des anecdotes de comment vous vous êtes senti les fondateurs à ce moment-là? Parce que, à un certain point, et bien entendu, loin de moi l'idée de dire que c'est la fin, que vous avez atteint l'objectif et que c'est terminé. On le sait très bien, vous avez une grosse croissance, encore une fois, qui vous attend. Vous venez d'engager 20, ou du moins, vous allez engager bientôt 25 nouvelles personnes. Mais à un certain point, tu as quand même terminé un premier cycle. Comment que ça s'est déroulé un petit peu tout ça entre les fondateurs, l'excitation? Y a-tu des anecdotes? Est-ce que vous étiez ensemble autour d'une table à essayer de débattre de c'est quoi la meilleure option, la meilleure solution?
Ben écoute, c'est drôle parce que on est avec le télétravail, c'est il y a quand même une gamme d'émotions. On dirait qu'on n'a peut-être pas eu accès comme si c'était une transaction dans le monde normal. Ou tu sais, ce qu'on me racontait, nos avocats chez Fasken qui ont fait un travail incroyable là, sur la transaction, on était super bien accompagnés là, autant chez Fasken, l'équipe de Costa Ragas et que du côté de chez Stifel avec Mathieu Lallier. On était vraiment bien accompagnés dans le processus des stars du milieu des acquisitions là, à Montréal là, qui étaient avec nous. Mais tout ça pour dire qu'ils nous contaient un peu comment ça se passe dans le monde normal. Et l'exemple le plus intéressant, peut-être, c'est la journée de signature. D'habitude, lors du closing, lors de la fermeture de la transaction, ben, tu passes une journée au bureau de tes avocats, tu signes les papiers. Bien entendu, tu étais avec tes associés. La cerise sur le sundae d'un long processus de revue diligente. Puis là, c'est la célébration commence déjà. T'sais. Dans notre cas à nous, ben, tu es derrière ton écran où t'as passé beaucoup trop de temps dans les dernières semaines. Tu sais que t'écoutes le hockey d'une oreille puis de l'autre oreille, tu travailles sur, t'es dans un meeting où tu fais tu partages des documents de revue diligente. Ben, c'était un peu ça. C'était un peu un cut interrompu en termes d'excitation où t'étais avec ton DocuSign puis tu signes, tu cliques, tu signes pendant 48 heures des trucs. Mais on a quand même réussi, on a triché un petit peu, là. On s'est quand même rassemblé les quatre cofondateurs avec l'équipe de management juste pour trinquer un verre de champagne rapidement, là. Bien entendu, de la distanciation sociale et tout ça, mais ça prenait un élément quand même physique. On est allé prendre un verre après ça avec sur une terrasse là, sur Mont-Royal, proche de nos premiers bureaux, là, avec nos investisseurs. Donc, on a fait des célébrations très sobres, un pique-nique dans le parc avec notre staff. On a fait ce qu'on pouvait faire à l'ère de la COVID, mais c'est sûr que on était loin du Wolf of Wall Street, là, des parties où on lance... je vais épargner l'analogie pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais mais ouais, c'était plus sobre. Définitivement plus sobre que ce qu'on s'imagine dans les scénarios les plus faux. Là.
Ben, c'est peut-être aussi que vous dites que ça va être à la prochaine fois, parce que bien entendu, il va y avoir d'autres aventures et d'autres objectifs que vous allez aller chercher avec Outsuite, avec Aidé. Et peut-être si tu peux nous parler un peu des apprentissages que tu as fait dans cette expérience-là, parce que bien entendu, c'est allé vite, beaucoup d'informations. J'imagine que tu as fait en l'espace de 6 mois un master à l'université que tu n'aurais pas pu avoir autrement. Comment que ça s'est déroulé tout ça? Quels sont les apprentissages que tu fais? Qu'est-ce que tu dirais aux gens, peut-être même qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans une position similaire ou à peu près comme la tienne et qui pensent à vendre leur entreprise?
Ben, je pense que c'est sûr que l'idéal, c'est un peu comme c'est du bon vieux dating, hein. L'idéal, c'est que l'entreprise vienne vers toi. Donc, c'est sûr que lorsque t'es dans un contexte opportuniste, t'as plus de leviers pour, trouver le bon fit, en fait,
Parce que vous étiez pas à vendre, hein.
Non, c'est ça, on s'est jamais mis à vendre, là. Ça a été purement opportuniste. Ceci dit, justement, l'envers de la médaille, c'est de garder toujours un esprit quand même, être ouvert d'esprit, parce que on est dans un contexte où le marché, il y a un flux de capital dans le marché, les taux d'intérêt sont bas. Ce que ça fait, c'est que ça crée beaucoup, beaucoup d'acquisitions dans le marché, peu importe l'industrie. Nous, on est dans une industrie qui a été fortement accélérée par la COVID. On a un résultat un peu d'une entreprise qui est censée avoir 6-7 ans minimum, puis on a 4 ans. Donc, l'accélération, tu le vois même dans le résultat, là, dans ce qui est arrivé. Puis c'est pas juste nous, c'est une industrie en général. On en a profité. Et c'est peut-être ça aussi, c'est de regarder, OK, quand tu as du momentum, il faut avoir toujours bon de se regarder dans le miroir, de dire, OK, qu'est-ce qui vient de notre travail, puis de notre succès, puis de notre exécution, puis qu'est-ce qui est plus macroéconomique qui est le contexte. Puis après ça, c'est de débattre, de dire, est-ce que c'est le bon timing pour nous? Est-ce que cette décision-là fait du sens? On avait les deux options. Puis tu regardes, il y a un côté à la fois hyper rationnel où tu regardes les chiffres, tu regardes les offres que tu as, tu regardes autant en capital de risque en partenaire stratégique comme un Hootsuite. Fait qu'il y a une décision hyper rationnelle. On a quand même un conseil d'administration et des investisseurs qui ont mis pas mal d'argent quand même. Ça se fait pas tout seul, là, cette décision-là. Ça prend un consensus, ça prend une coalition. Mais un côté, tu regardes ça d'un point de vue rationnel. L'autre côté, un point de vue émotionnel aussi. Tu sais, c'est quand c'est une marque que tu respectes, qui t'approche, t'es beaucoup plus ouvert d'esprit. Tu sais. Il y a d'autres entreprises qui nous ont approchés où on n'avait pas vraiment d'excitation un tel nous a approché, ah, OK. Mais quand c'est un leader canadien, une compagnie qu'on respectait, qu'on sent que beaucoup de potentiel latent malgré le fait qu'ils sont très matures comme entreprise. Là. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle révolution dans le social qui s'amorce. Fait que pour nous, on sent que c'est malgré le fait que c'est une compagnie hyper mature, il y a aussi une page blanche qui reste à être écrite. Ça, c'est le défi de croissance personnelle. Les entrepreneurs, il y a l'argent, c'est une chose, mais on est beaucoup dans la quête de notre potentiel humain, là, dans l'amélioration constante de qui on est, de nos capacités, par extension, de l'organisation qu'on bâtit. C'est toutes ces variables-là qui viennent en ligne de compte là, quand t'évalues une opportunité comme celle-ci. Là.
Puis à la fin, ben c'est ça. Vous êtes rendu compte que avec vos objectifs pour aider, avec peut-être également vos objectifs personnels, une transaction à ce moment-là, c'est ce qui faisait le plus de sens. Puis je pense que c'est un petit peu ça que tu dis aujourd'hui aux gens, c'est de dire, puis corrige-moi si je me trompe, mais analysez votre situation, mais analysez-la également avec tout ce qui se déroule dans l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que c'est sûr et certain que peut-être sans la COVID, c'est peut-être pas ce qui se déroule aujourd'hui pour vous, parce que peut-être vous seriez encore dans votre croissance normale et vous auriez pas eu cette accélération-là. Et là, de voir que la COVID se termine, c'est une bonne chose, hein? Ben là, peut-être que, oh, il y a un marché qui va changer et c'est peut-être là qu'il faut la faire, la vente de l'organisation, parce que peut-être que les multiples vont être différents dans quelques années.
Mais tu le résumes bien. Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'être agile. Tu sais, tu apprends sur le tas, t'es réactif, t'es à la fois proactif avec ta vision. Donc, toujours ta destination en demeure, la vision en demeure la même. On a la même vision aujourd'hui à peu près, à toute chose près, qu'au début de l'entreprise. Mais le chemin parcouru pour atteindre ta destination est en constante évolution. Ça prend de l'agilité. Ça prend aussi beaucoup en bon franglais, du self-awareness. Donc, il faut vraiment avoir une prise de conscience de tous les instants, autant de tes capacités en tant qu'entrepreneur, les capacités de ton équipe à aller toujours plus loin, toujours plus vite, rencontrer les objectifs de croissance. Les capacités aussi de ton entreprise dans un contexte macroéconomique aussi, donc les opportunités dont on parlait. Le bon vieux, le Business School 101, là, on parle des SWOT analysis, donc SWOT pour ceux qui connaissent moins ça, le strength, weaknesses, opportunities and threats, donc les opportunités, les menaces, les forces et faiblesses de l'entreprise, autant en interne qu'en externe. Au final, c'est un modèle-là, il est cliché, mais il est tellement important parce que c'est un miroir que tu te mets devant toi. Là, tu dis, OK, on a ces forces-là, on a ces faiblesses-là. OK, une consolidation dans le marché en général. Telle faiblesse est peut-être accentuée par telle menace. Puis, il y a personne qui a une boule de cristal, mais tu essaies de t'en créer une un peu, t'en fabriquer une pour éduquer tes décisions. Puis, tu parlais tantôt aussi, il y a des objectifs individuels aussi indéniables, des stades de vie. Tu sais, des fois, un cofondateur, un enfant qui est à un âge X, puis il sent qu'il faudrait peut-être qu'il commence à être un petit peu plus présent à la maison. Ou un autre, au contraire, il vient de fonder une famille, puis là, il y a un bébé. Puis, sa femme trouve qu'il n'aide pas assez. Tu sais, il y a tous des facteurs, des fois, qu'on oublie, mais qui font partie de l'être humain qui est un entrepreneur aussi. Puis ça, c'est la dimension personnelle qui est unique à chacun. Là,
puis dans ce processus-là, Étienne, est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé à mieux comprendre l'environnement dans lequel que tu naviguais? Est-ce que tu as lu des livres spécifiques? Est-ce que tu t'es entretenu avec des gens qui l'avaient fait? Y a-tu cet apprentissage-là que tu t'es mis comme travail à faire pendant cette expérience?
Ben, je pense que la clé, c'est les aviseurs, c'est les mentors. Ça a plusieurs formes, des mentors. Des mentors, ça peut être des entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Moi, je dis toujours de toute façon qu'il n'y a pas de recette. Là. Chacun te partage son histoire, t'en prends puis t'en laisses selon leur contexte. Des fois, exactement la même compagnie, mais qui serait vendue 5 ans avant, c'est une autre histoire. Prends les mêmes gens, la même compagnie, la même idée, le même marché, mais pas le même timing, ça change la donne. Donc, imagine si tu rajoutes les variables, que c'est pas la même industrie, pas la même, les mêmes gestionnaires. Il y a pas une histoire qui est pareille, mais ça vaut quand même la peine de la multiplicité des points de vue pour te faire une tête, tu sais. Donc oui, j'en ai eu, tu sais, même je vais la nommer, la remercier publiquement, même si elle comprend pas nécessairement le français, mais j'ai Yolanda Wardowski que j'ai rencontré via un programme, à New York, là, un accélérateur virtuel encore là à l'ère de la COVID, mais à New York, qui était, elle était l'ancienne vice-présidente de JP Morgan Chase, M&A. Donc elle est devenue une mentor personnelle. C'est sûr qu'elle m'a un petit peu éduqué sur le cours 101, là, que je connaissais rien le 9 mois par rapport au M&A. Puis plus spécifiquement, des fois on a tendance à, on a fait cette erreur-là tout dans le parcours puis on l'a plus jamais fait après. Mais des fois on peut se dire, ah, tel expert coûte cher, tu sais, ça coûte cher de l'heure. Mettons les meilleurs avocats en ville, ça coûte cher de l'heure, le meilleur banquier d'affaires en ville. Mais ces gens-là, au final, vous font sauver de l'argent parce que si réellement t'engages le meilleur en ville, il va t'amener beaucoup plus loin. Il va s'assurer aussi, il y a beaucoup de... On s'est fait dire même par justement nos aviseurs que 9 transactions sur 10, ou en tout cas à tout le moins 8 sur 10 achats entre l'offre et la fermeture, il y a un paquet de variables qui font en sorte qu'une transaction ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus facile, c'est comme un couple, hein, c'est beaucoup plus facile que, ou un mariage, beaucoup plus facile que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. Donc, il faut que les étoiles soient alignées, il faut que toutes les variables soient là. Et l'accompagnement, nous, on était tous à notre premier rodéo. Là. Les 4 cofondateurs, c'est notre première entreprise. Mais j'ai vraiment j'ai pas travaillé avec les autres. Fait que c'est, je suis biaisé, mais j'ai assez travaillé avec Jean pour savoir quand il y a des gens excellents devant toi. On a été accompagnés de guides, des samouraïs, là, des mercenaires, je vais les appeler, des vrais, des vieux sages qui sont pas si vieux que ça, mais qui sont des gars expérimentés. Autant du côté de Fastkin, comme je disais tantôt, Costa Ragas et Mathieu Lallier chez Stifel. Mathieu était l'ancien VP là, de BMO, Capital Market, c'est des gars qui ont une feuille de route impressionnante. Quand t'es entrepreneur, il faut que t'aies aussi l'humilité d'écouter les autres puis de dire OK, lui, il en a vu d'autres, je vais l'écouter, je vais prendre les conseils puis je vais les appliquer en temps réel après. T'sais. Fait qu'on a eu. Ça, c'est une qualité que je trouve de mes associés, puis je vais pas me l'attribuer moi-même, parce que attribuer les qualités, c'est bizarre, mais c'est d'apprendre. C'est d'apprendre d'avoir l'humilité d'apprendre des autres, en fait. De dire, OK, moi, je connais moins de ce sujet-là, puis je vais être une éponge, puis je vais être un étudiant, puis après ça, je vais y aller avec le meilleur de mes connaissances. Puis inversement, c'est de se faire confiance aussi. Ça veut pas dire qu'un expert dit telle chose, que ça s'applique à ton entreprise. Donc, faut bien connaître son bébé, là. Tu sais, tu connais ton enfant. Des fois, les conseils en ligne, ça vaut ce que ça vaut. Fait que c'est de connaître ton industrie, puis de te faire confiance que t'as une bonne idée de où est-ce que ça s'en va, puis de comment la présenter, puis ouais, c'est un mix de se faire confiance, mais en même temps de pas avoir l'arrogance de penser que tu sais tout, d'avoir l'humilité d'écouter.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Puis là, pour toi précisément, prochains mois, prochaines années, donc là j'imagine que tu dois rester à l'intérieur de l'organisation, même si tu as envie de l'être, je pense que tu dois quand même rester pendant quelques années. Ça ressemble à quoi tout ça, là?
Ben, c'est sûr que nous, dans un contexte où on veut bâtir un centre d'excellence en intelligence artificielle à Montréal, on veut continuer à grandir notre équipe, continuer à... C'est un nouveau chapitre pour aider de façon générale. Nous, on s'est engagé avec les contrats de transition à moyen terme, là, les associés. Donc, on verra... je veux dire, c'est tout nouveau, tout beau.
Bien sûr.
On verra à moyen terme qu'est-ce que ça veut dire, mais... nous, on n'est pas là pour du court terme, puis on se débarrasse de notre équipe, on se débarrasse de notre technologie, puis on lève les pattes, puis on s'en va dans le sud, là, tu sais. On est vraiment, en fait, plus motivé que jamais parce que on sentait qu'on avait un produit hyper compétitif où on a gagné, des appels d'offres avec des grosses marques. Quand t'as 4 ans, un Lacoste gagné mondialement, c'était quand même un beau fait d'arme. Fait que ça te donne la confiance en témoin de dire, OK, on a un produit qui rencontre les enjeux du moment, tu sais, accéléré par la crise. Puis la crise, on s'entend qu'il y a beaucoup d'impacts qui vont perdurer d'un point de vue e-commerce, etc., point de vue affaires. Donc, on sent qu'on a quelque chose, mais après ça, on se disait, ouais, mais on a l'impression qu'on la commercialisation, on pourra jamais aller assez vite avec les d'un côté, t'as peut-être 10 millions de financement, puis le compétiteur ou Facebook achète une compagnie, puis là, ils ont le budget de Facebook, tu sais. Donc, c'était d'avoir un peu la clairvoyance slash l'humilité de dire, OK, on a bien fait, on est sur une belle lancée, mais comment on fait pour être encore meilleur? Comment on fait pour s'accélérer? Puis peut-être qu'on a besoin d'aide. Puis quand tu regardes Outsuite qui ont plus de 300 personnes juste en vente et marketing, tu te dis, OK, c'est un autre ordre de magnitude, tu sais, c'est un autre ordre de grandeur. Ça peut pas nous nuire, on va dire ça de même.
Wow. Étienne, encore une fois, félicitations pour tout ça. C'est assez exceptionnel. 4 ans seulement à la fondation de l'entreprise, une sortie à 60 millions de dollars, une entreprise en effervescence, qui a des clients de renom. C'est assez formidable ce que toi et tes 3 cofondateurs avaient été capables de faire. Donc, félicitations pour ça. Tu as parlé brièvement des postes d'ouvert. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Oui, ben en fait, allez sur notre page carrière, là, sur notre site web, parce que essentiellement tous les départements sont en mode embauche. Donc, que vous soyez des programmeurs, que vous soyez des vendeurs, que vous soyez des gens en produit, en design, on a pas mal besoin, même un commis comptable, on a de tout, pour tous les goûts. Donc, il y a un buffet d'opportunités, puis même s'il y a un rôle qui ne cadre pas à 100% avec votre expertise, votre passé, votre CV, n'hésitez pas, là, on est toujours preneur des candidatures spontanées. Des fois, le poste n'est pas affiché, mais on a un besoin qui s'en vient, ça nous fait plaisir de piger dans les candidatures spontanées également.
Merveilleux. Ben, Étienne, merci beaucoup d'avoir repris le temps avec l'audience de l'hypercroissance. Aujourd'hui, ça a été toute une discussion. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Au nom de toute l'équipe de Hypercroissance, je tiens à prendre quelques instants pour féliciter les 4 cofondateurs de Heyday. Étienne Mérineau, Steve Desjarlais, David Bordello et Hugues Rousseau. C'est assez incroyable ce que vous avez été capable de faire en si peu de temps et un merci particulier à Étienne qui a été très généreux de son temps 2 fois cette année. Également, continuez de m'ajouter sur LinkedIn. J'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez des superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.